Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Lecaplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec Xenia Jornoclé de la rédaction ukrainienne. Vous nous en direz plus sur qui sont ces étrangers qui se battent aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. David Coffey, la rédaction en anglais.
Good evening.
Avec vous, il sera question d'une étude intitulée « Le cheminement de l'Ukraine vers l'adhésion à l'Union européenne et ses implications ». Pour la rédaction en russe, Denis Relkov.
Добрый вечер.
Vous nous parlerez de cinéma avec le festival Art Doc Fest qui se tenait à Riga, en Lettonie. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est l'aide apportée à l'Ukraine. L'Ukraine, justement, dans sa guerre contre la Russie. Hier soir, le président français s'est exprimé une nouvelle fois pour clarifier notamment ses propos sur la possibilité d'envoyer des soldats sur le terrain.
Il y a entre Strasbourg et Lviv moins de 1500 kilomètres. Donc ça n'est pas une fiction et ça n'est pas loin de nous. Toutes ces options sont possibles. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Ma responsabilité, c'est la sécurité des Français et la défense nationale. Et notre sécurité se joue aussi en Ukraine aujourd'hui.
J'ajoute que cet après-midi, Emmanuel Macron a également déclaré que France, Allemagne et Pologne sont d'accord pour, je le cite, ne jamais prendre l'initiative de l'escalade. David Coffey, la position dure du chef de l'État français à l'égard de la Russie vous interpelle.
Oui, nous avons suivi de près l'adoption par M. Macron d'une position beaucoup plus dure à l'égard de la Russie, exhortant les alliés de l'Ukraine à faire plus d'efforts de toute urgence. Et bien sûr, il n'a pas exclu la présence des troupes occidentales en Ukraine, ce qui a provoqué une réaction brutale de la part des alliés occidentaux, sans parler du Kremlin lui-même, Poutine ayant fait des déclarations sans ambiguïté sur l'état de préparation de l'arsenal nucléaire de la Russie. En effet, alors que les simulacres d'élections russes se déroulent aujourd'hui, RFI English s'est davantage concentré sur le sommet dit du Triangle de Weimar, qui se tient également à Berlin ce vendredi. Le Triangle de Weimar est un format diplomatique de coopération entre la France, l'Allemagne et la Pologne, établi en 1991. C'était, entre guillemets, un format important pour les échanges politiques. Alors que la politique de M. Macron à l'égard de l'Ukraine a reçu le feu vert de son pays mardi, la réunion d'aujourd'hui à Berlin souligne la nécessité de maintenir le soutien à l'Ukraine. Elle fait suite à une rencontre entre le président américain Joe Biden et le premier ministre polonais Donald Tusk à Washington après que M. Biden a annoncé un plan d'urgence pour l'Ukraine. Mais le spectre d'une réponse nucléaire à toute escalade de la guerre en Ukraine, que ce soit par le déploiement des troupes ou la fourniture des missiles Taurus à longue portée par l'Allemagne, a jeté une longue ombre sur le vote de mardi, ici à Paris.
Vote sur lequel on reviendra tout à l'heure. Xenia Jornoclé, comment ce que dit Emmanuel Macron est-il reçu en Ukraine?
Alors, si en France on cherche à comprendre le message derrière ces mots, le sens caché et sous quelle forme les militaires français ou autres peuvent intervenir, en Ukraine, les propos du président étaient interprétés d'une façon beaucoup plus directe. La question « si » les combattants européens ou de l'OTAN entrent en Ukraine ne se posent pas pour les Ukrainiens. La question est quand. La plupart des Ukrainiens avaient besoin d'un message positif, d'un espoir. Et beaucoup d'entre eux ont vu dans les propos d'Emmanuel Macron une voie de sortie de cette guerre. Cela leur donne un sentiment d'un issue de secours, le sentiment d'être soutenu jusqu'à la victoire complète. Évidemment, il y a aussi ceux qui se sont posés des questions. Pourquoi maintenant? Est-ce que la situation est tellement grave? Est-ce qu'on ne sait pas quelque chose ou le gouvernement de Zelensky ne nous dit pas? Une chose est sûre, aujourd'hui, on parle de la position du leader que la France occupe en Europe.
Et à l'inverse, en Russie, Denis Relkov, la position française est critiquée. Et le Kremlin parle de nouveau d'une possible guerre nucléaire.
Comme vous l'avez deviné, rien de nouveau dans les réactions officielles de Moscou. Pas de surprise, ce vote au Parlement n'a pas apaisé les tensions bien présentes dans les relations bilatérales. On n'a pas entendu deux fois pro-français s'exprimer au sein du Parlement russe, par exemple, loin de là, l'escalade que Moscou Moscou ne craint pas. Voici comment on peut résumer en quelques mots la réponse du Kremlin. Monsieur Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France, a déclaré la porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, et de la part de Vladimir Poutine, encore une affirmation sans appel, la Russie est prête d'utiliser les armes nucléaires si l'existence de la Russie est menacée ou en cas d'attente à notre souveraineté et à notre indépendance.
Alors est-ce que Vladimir Poutine précise quelles sont ces fameuses lignes rouges que l'Europe et l'OTAN ne doivent pas franchir ?
De nouveau, on découvre que dans la communication officielle, les lignes rouges, proprement dites, n'existent plus dans cette guerre. Sur cela, le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron sont, pour une fois, d'accord. Mais sur le terrain, on voit qu'il reste des tabous de solutions qui sont, au moins pour l'instant, écartés par la Russie et par l'Europe, y compris par la France. Pour la Russie, c'est l'utilisation des armes nucléaires, comme on l'a dit, ou les frappes sur l'installation de l'énergie atomique. Les menaces prolifèrent depuis déjà 2 ans, mais pour l'instant, pas d'action réelle. Et en plus, les frappes sur les territoires de l'OTAN sont exclues, malgré les paroles virulentes qu'on entend à la télévision russe, qu'il faut frapper l'OTAN et les pays de l'Europe. Une telle escalade, on n'en veut pas. Dans le part de l'OTAN, on sent que la question de l'envoi des troupes au sol ne fait pas l'unanimité. Même à l'Élysée, on a vu une sorte de rétropédalage. Les mots d'Emmanuel Macron, jugés audacieux en Ukraine, ont semé de confusion entre les Occidentaux. Pour Joe Biden, pour Olaf Scholz, pour d'autres, un tel renfort militaire, pour l'instant, est hors de question.
Voilà ce que dit la Russie. Xenia, quelle est votre écoute et votre œil ukrainien là-dessus ?
Alors en Russie, rien ne change et c'est toujours une guerre non contre l'Ukraine, mais contre l'Occident, contre l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et je vous propose d'écouter une compile de premières réactions de journalistes de chaîne de télé centrale.
Срочные новости. Итак, еще один Рубикон пройден. Président Франции Emmanuel Macron.
Alors, qu'est-ce qui est dit à propos d'Emmanuel Macron ?
Alors, beaucoup d'émotions. Breaking news, un autre Rubicon a été franchi. Le président français Emmanuel Macron a admis que les troupes de l'OTAN pourraient être envoyées en Ukraine. Le Kremlin a déclaré que si la botte de l'OTAN entrait officiellement sur le sol de l'Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Alliance deviendrait inévitable. Deux possibilités. La première, les choses se préparent pour la Troisième Guerre mondiale. La seconde, l'Ukraine est de plus en plus incapable de tenir un territoire à elle toute seule et cela ressemble toujours à la Troisième Guerre mondiale. Voilà.
Et puis il y a d'autres réactions de l'ordre de menaces nucléaires.
Hein, oui, celle-là. Et certains, soi-disant experts en Russie, parlent d'un plan de partage du territoire de l'Ukraine entre l'Europe et la Russie. Une partie du pays qui restera sous le contrôle russe, comme la Crimée par exemple, et une autre partie qui va être redistribuée entre les pays voisins de l'Ukraine, ce qui encore s'inscrit dans le discours du Kremlin, selon lequel l'Ukraine n'est qu'une erreur historique.
Denis, ce qui choque le plus à Moscou, c'est que la France, qui lève ce tabou, compte tenu des relations particulières entre les deux pays.
Oui, sur le plan diplomatique, Moscou a mis tous ses efforts pour préparer l'agression en Ukraine. En Europe, le Kremlin soutenait ouvertement certaines forces politiques, multipliait les forums bilatéraux, installait des réseaux médiatiques d'influence. Et la France était l'un des endroits où cela fonctionnait le mieux. D'ailleurs, il faut remarquer que les partis de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, réputés proches de Moscou, n'ont pas soutenu l'accord entre la France et l'Ukraine. Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui, il y a encore quelques années, était pour le dialogue avec Moscou, le dialogue jugé parfois impossible par les États-Unis. C'est Emmanuel Macron qui est allé en Russie pour le championnat du monde du football en 2018, pendant que plusieurs dirigeants européens ont boycotté cet événement. Et ce n'est pas que Macron qui a fondé cette tradition. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, plusieurs présidents ont multiplié des gestes pro-russes à l'époque. Donc pour la Russie, l'accord entre la France et l'Ukraine, c'est un pas en arrière important, la fin de l'illusion que l'opinion publique française reste encore favorable à Moscou. Pour cette occasion, en Russie, les politiques rappellent une longue histoire des relations entre les deux pays, notamment la prise de Moscou par Napoléon. Le président de Douma russe, Vyacheslav Volodin, rappelle notamment qu'en 1812, la France n'a pas réussi à envahir le pays.
Alors, vous faisiez allusion à ce qui a été voté en France à l'Assemblée, c'était mardi dernier, l'accord donc entre la France et l'Ukraine et sur l'aide à apporter à l'Ukraine. David, le service anglophone a eu quelle approche à propos de ce qui a été voté ?
Bon, de toute évidence, les débats ont montré de profondes divisions au sein de la politique française et sur la politique du président Emmanuel Macron à l'égard de Kiev, même si l'accord non contraignant a été adopté avec une large marge. Mais avec tous ces blocages de l'aide à l'Ukraine qui ont fait la une des journaux au cours des 6 derniers mois, en particulier les mesures prises par le Hongrois Viktor Orban pour empêcher l'Union européenne de débourser 50 milliards d'euros de l'aide, et les républicains américains qui ont gelé leur paquet de soutien militaire, il n'est donc pas étonnant que nous nous soyons concentrés sur l'attitude du parti d'extrême droite, le Rassemblement national, à l'égard du vote.
Et le RN est depuis longtemps accusé d'être un bouc émissaire de la Russie.
Oui, la figure de proue du RN, Marine Le Pen, a été tristement invitée au Kremlin et accueillie par Poutine avec toutes les photos souriantes qui en ont découlé. Jordan Bardella, le leader du RN âgé de 28 ans, a déclaré que son parti s'abstiendrait lors du vote de mardi en raison de ses lignes rouges. « Nous devons être très prudents », a déclaré M. Bardella. « Oui au soutien de l'Ukraine, mais non à la guerre avec la Russie. » Mais cela intervient également alors que le RN dispose d'une avance significative sur l'alliance des partis de Macron avant les élections européennes en juin. Donc, il a donc pas été surprenant le week-end dernier lorsque les alliés de Macron ont lancé leur campagne électorale européenne dirigée par l'eurodéputé centriste Valérie Ayer que les macronistes se soient empressés de souligner qu'un vote pour le Rassemblement national était un vote pour Poutine. Mais bien que le vote de mardi sur l'Ukraine soit symbolique, il a donné aux partis politiques l'occasion d'exprimer publiquement leur position par rapport à la stratégie de M. Macron sur le conflit ukrainien.
Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est entrée dans sa troisième année. Voilà pour ce regard croisé des rédactions de RFI sur le soutien occidental et français à l'Ukraine.
20 h Paris, 20 h Stade, 20 h Sidney.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Cette guerre en Ukraine, des milliers d'étrangers y participent. Ils se battent aujourd'hui aux côtés du drapeau bleu et jaune, des Américains, des Canadiens, des Allemands, des Géorgiens, des Polonais, des Français et bien d'autres encore. Et cela peut paraître incroyable et contre nature. Il y a aussi des Russes. Alors, qui se bat exactement dans cette guerre pour une guerre qui n'est pas la leur? Pourquoi aussi? Voyons cela avec vous, Xenia Jean-Noclet de la rédaction ukrainienne.
Alors, le 27 février 2022, trois jours après le début de l'invasion totale de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a appelé les citoyens d'autres pays qui se sentent suffisamment forts pour lutter contre le plus grand agresseur du XXIe siècle de rejoindre les armées ukrainiennes. Conformément au règlement en vigueur, les étrangers ont le droit de rejoindre les forces armées de l'Ukraine pour le service militaire sous un contrat et sur une base volontaire. Dans le même temps, on a annoncé la création de la Légion internationale de la défense territoriale de l'Ukraine.
Oui, et dans le même temps, la création de la Légion internationale de la défense territoriale a été annoncée. Alors comment est-ce qu'on peut rejoindre cette Légion? Qui en fait partie aujourd'hui?
Alors pour rejoindre ces rangs, les citoyens d'autres pays peuvent en faire la demande auprès de l'ambassade de l'Ukraine dans leur pays d'origine. C'est assez facile et puis le nécessaire est fait. Après, il y a une procédure à suivre. On ne connaît pas très bien les détails, mais c'est toujours possible. Et aujourd'hui, selon les données officielles, les représentants de 55 pays servent dans la Légion. En tant que pourcentage, la plupart d'entre eux sont des Britanniques, Américains, Polonais et Canadiens. Mais il y a aussi des citoyens de Brésil, de la Corée du Sud et de l'Australie. Certains de ces soldats aident activement l'Ukraine dans le domaine de l'information, par exemple. Par exemple, en partageant avec leurs compatriotes la vérité sur les horreurs de cette guerre et en expliquant pourquoi les pays alliés doivent continuer à soutenir les Ukrainiens autant que c'est possible. Pour des raisons de sécurité, bien sûr, le nombre exact de soldats étrangers dans la Légion n'est pas divulgué.
Quels sont les motivations de ces combattants qui risquent finalement leur vie pour un pays qui n'est pas le leur?
Alors, selon l'analyste militaire indépendant Alexandre Alessina, avec qui on a pu parler par téléphone, la simple participation des étrangers dans les guerres dans un autre pays, ce n'est pas si rare que ça. Et les motivations de ces combattants peuvent être très différentes, comme on peut le voir dans l'armée ukrainienne, par exemple. Je propose qu'on l'écoute.
Первые, ну, это люди, которые действительно, они любят адреналин.
Alors, il explique qu'il y a trois catégories de gens. La première catégorie est constituée de personnes qui aiment vraiment l'adrénaline et ne peuvent pas vivre sans le risque. Il s'agit souvent d'alpinistes, de coureurs, de militaires professionnels. Puis la deuxième catégorie est celle de personnes qui veulent gagner de l'argent. Il y a aussi ceux qui sont motivés par l'idéologie, qui croient qu'ils défendent la démocratie occidentale, qu'ils défendent le peuple ukrainien. Mais il y a une autre catégorie qui représente, pour ainsi dire, un mélange de la première et de la troisième. Il s'agit de personnes qui aiment l'adrénaline, mais qui sont également motivées sur le plan idéologique.
Alors, comment ces combattants sont-ils organisés sur le sol ukrainien au sein de cette légion ?
Alors, les étrangers combattent plus efficacement lorsqu'ils sont réunis en unités distinctes, comme la Légion internationale. Et les gens se battent mieux lorsqu'ils sont ensemble avec leurs compatriotes. Il n'y a pas de barrière linguistique, pas de contradiction mentale ou religieuse. Et ces personnes peuvent devenir instructeurs dans le futur. Mais là encore, c'est le commandement ukrainien qui doit être du côté des chefs de bataillon.
Qu'est-ce qu'on sait de la participation russe, hein, j'en parlais tout à l'heure, aux côtés des Ukrainiens? C'est assez étonnant.
Oui. Alors, la Légion internationale comprend des unités composées de représentants d'un même pays. Et par exemple, le corps de volontaires russes et la Légion de liberté de la Russie sont composés que de citoyens russes. Ces deux unités ont été formées en 2022, tout de suite après le début de l'invasion.
Et eux, alors, qu'est-ce qui les motive? Ils sont en train de combattre d'autres Russes, finalement, leurs propres compatriotes.
Oui. Ces gens peuvent avoir des revendications contre leurs anciens gouvernements et lorsqu'il y a un rejet idéologique de dirigeants russes, ils se mettent aux armes et ils défendent l'Ukraine. Comme illustration, je vous propose d'écouter le témoignage d'un combattant russe au sein du bataillon de la Sibérie qui s'appelle Alexei Makarov. Il est surnommé le Suédois. Il est né et grandi à Moscou et au début des années 2000, il était membre de l'avant-garde de la Jeunesse Rouge. Il était arrêté et puis il a obtenu l'asile politique en Suède.
On l'écoute. Alors, que dit ce russe surnommé le Suédois?
Oui, alors il croit, il espère qu'à la suite de la défaite de l'armée russe en Ukraine, une situation révolutionnaire se produira en Russie même. L'État russe, dans sa forme actuelle, sera détruit. Et à la place du régime de Poutine, il aimerait voir une société fondée sur les principes de la justice sociale, de l'autonomie, de la protection de la nature et de l'éradication de toutes les formes de discrimination.
Xenia, vous avez également rencontré une Russe vivant à Paris qui vient juste de partir pour combattre au sein de la Légion appelée, vous en parliez tout à l'heure, Liberté de la Russie.
Oui, nous avons reçu dans notre studio Anastasia, une femme russe qui vit en France depuis 15 ans, une brodeuse de haute couture avec une carrière exceptionnelle et qui a pris la décision de partir en Ukraine pour combattre au sein d'un bataillon composé de Russes. Aujourd'hui, elle fait partie de la Légion Liberté de la Russie, elle se trouve là-bas, on est toujours en contact et d'ailleurs, c'est le seul bataillon qui fait partie des forces armées ukrainiennes d'une façon officielle. C'est bien marqué sur le site. Et récemment, on a commencé d'en parler un peu plus suite aux événements dans les régions de Koursk et Belgorod. Et voici ce que Anastasia nous explique sur ses motivations personnelles.
Il n'y a pas de parti ici. Il ne faut pas tuer des enfants civils dans un autre pays. Point. C'est comme ça. Il ne faut pas le faire. Donc, et cette sensation d'injustice et impuissance, donc, du coup, il a commencé à prendre par-dessus de moi. Déjà, depuis le début de la guerre, la seule envie que je voulais, c'est prendre arme et aller. Surtout, je suis une fille d'un militaire. Mon père était un médecin militaire, donc je suis grandie dans les casernes. Et c'est l'honneur de servir la patrie, c'est l'honneur de se combattre pour les gens. Donc c'était toujours dans l'air un tout petit peu. Après, ce qui est bizarre, c'est que défendre la patrie, c'est pas la patrie de mon passeport, du coup, je vais défendre. Parce que le monde est devenu à l'inverse. Donc c'est le monde est devenu complètement à l'inverse, c'est ça qui est bizarre. Donc du coup, je dois défendre l'autre patrie contre les compatriotes.
Voilà. Qu'arrivera-t-il à Anastasia et à tous ces combattants une fois que la guerre sera terminée?
Alors, ils ne pourront plus jamais rentrer en Russie, au moins le temps que le régime ne change pas de façon radicale. Mais récemment, en janvier 2024, Volodymyr Zelensky avait annoncé une proposition de loi de naturalisation des étrangers qui combattent en Ukraine pour sa défense. Cela veut dire que dans le futur, les combattants étrangers pourront accéder à la nationalité ukrainienne. Et d'ailleurs avec des conditions beaucoup plus souples quant aux connaissances de la langue ukrainienne par rapport aux étrangers.
Xenia Jean-Noclé, de la rédaction ukrainienne de Radio France Internationale. L'Institut Bruegel à Bruxelles publie un rapport très intéressant sur le coût réel de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il estime son coût à 136 milliards d'euros. Et c'était avant même que débute la reconstruction d'après-guerre. Mais au total, David Coffey, le coût de cette reconstruction, à lui seul, est estimé à au moins 400 milliards d'euros.
En effet, bien que 136 milliards d'euros ne représentent qu'une fraction du PIB de l'Union européenne, ils constituent néanmoins une part considérable du budget septennal de l'Union. Le processus d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne a commencé à une vitesse fulgurante après l'invasion de la Russie en février 2022. Et en juin de la même année, l'Union a signalé son engagement envers Kiev en approuvant rapidement sa demande d'adhésion. Accordant ainsi à l'Ukraine le statut de candidat officiel. Toutefois, le Conseil européen a posé comme condition préalable aux négociations d'adhésion la poursuite des réformes, notamment dans le domaine de l'état de droit et de la gouvernance, alors que l'on reprochait à l'Union d'être trop actif dans sa demande d'adhésion de l'Ukraine. Donc, ces conditions préalables ont finalement été acceptées en décembre dernier, après des mois de veto par et d'argumentation politique de la part du Premier ministre hongrois pro-russe Viktor Orban.
Alors si l'adhésion à l'Union européenne se concrétise, quelle aide l'Europe doit-elle apporter à l'Ukraine pour gérer justement cette reconstruction d'après-guerre et puis à quel prix ?
Bon, j'ai parlé à Zsolt Darvas, chercheur principal à l'Institut Bruegel et co-auteur du rapport, qui a souligné que le coût de la reconstruction de 400 milliards d'euros est un montant énorme, mais ce n'est pas l'Union européenne qui en paiera la plus grande partie. L'Union européenne contribuerait à la construction d'actifs clés, non seulement par le biais des financements publics, mais aussi par l'intermédiaire d'entreprises privées, devenant ainsi propriétaire d'une grande partie de l'infrastructure en Ukraine. Il dit le secteur privé contribuera, l'Union européenne contribuera comme d'autres pays, mais cela dépend aussi de qui sera le prochain président américain. Pour rendre la situation plus acceptable aux yeux des États européens, M. Darvas a fait remarquer que le commerce et les investissements directs étrangers seraient facilités si l'Ukraine devenait membre de l'Union, soulignant que les entreprises occidentales ont réalisé d'énormes bénéfices lorsque les États d'Europe centrale ont adhéré au bloc en 2004.
Et puis il y a autre chose dont il faut parler. Avec l'afflux d'argent, surgit le spectre de la corruption qui est courante en Ukraine.
Effectivement, pour Darvas, le plus grand défi pour le pays est de gérer ses propres défauts de l'intérieur.
The biggest challenge of Ukraine joining the EU is related to Ukraine itself, namely, you know.
Quel est son commentaire, David?
Alors, il dit le plus grand défi pour l'Ukraine dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne est lié à l'Ukraine elle-même. Il s'agit de l'état de droit, des normes, du contrôle de la corruption et de la démocratie. Selon les indicateurs de gouvernance compilés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l'Ukraine se classe encore plus bas que la Russie et la Biélorussie. Le point de départ de l'Ukraine est très très faible et ce sera un énorme défi pour le pays d'atteindre les normes européennes.
Néanmoins, l'invasion de la Russie a catalysé une ruée au sein de l'Union européenne pour obtenir l'adhésion de l'Ukraine. Et cela, quel qu'en soit le prix, hein.
En effet, certains ont établi un parallèle avec la réunification de l'Allemagne au début des années 90, qui aurait coûté quelque 2 000 milliards d'euros au cours des 25 dernières années, alors que l'Ouest, plus riche, déversait ses investissements dans l'Est anciennement contrôlé par l'Union soviétique. Toutefois, M. Darvas a expliqué que les facteurs qui ont poussé l'Allemagne de l'Est à sortir du froid étaient différents.
At the time of German unification, a major goal of Western German political leaders was to bring the living standard.
Que dit Monsieur Darvas?
Bon, il dit au moment de l'unification allemande, l'objectif principal était de rapprocher le niveau de vie des Allemands de l'Est à celui des Allemands de l'Ouest. Même si les salaires restaient inférieurs à ceux de l'Allemagne de l'Ouest, l'écart était d'environ 20%. Dans le cas de l'Ukraine, nous parlons des différences salariales de plus de 10 à 15 fois. Il ne croit pas que Bruxelles déboursera de l'argent pour rapprocher les niveaux de salaire de l'Ukraine de la moyenne de l'Union européenne, car cela représenterait un coût énorme. Il est plus probable, selon Darvas, que Kiev commence à se rapprocher de l'Union, ce qui mettrait l'économie ukrainienne sur la voie de l'amélioration des salaires et du niveau de vie, même si la route sera longue.
On voit bien donc que cette adhésion à l'Ukraine, c'est aussi une question de sous. David Coffey, la rédaction anglophone de RFI. La semaine dernière, à Riga, en Lettonie, il était possible de regarder de très près ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Lors d'un festival de cinéma documentaire, il s'appelle Art Dog Fest, ont été projetés des films avec des regards particuliers qui permettent de mieux comprendre la guerre et ses conséquences. Un festival annuel, hors du commun, très politique. Denis Strelkov, vous y étiez. Alors pourquoi ce festival est si particulier pour le monde du cinéma ?
Il s'agit d'un festival inédit pour le monde du cinéma documentaire car il s'intéresse à une zone assez particulière dont on a tendance aujourd'hui de parler assez peu. Il y a des films tournés dans les pays de l'ex-URSS où on parle russe, il y a des films indépendants tournés en Russie qui nous permettent de jeter un coup d'œil dans ce qui se passe dans le pays sans faire des amalgames. Un festival qui se prononce très ouvertement contre la guerre mais qui s'intéresse aux gens qui soutiennent cette guerre, aussi bien qu'aux Russes qui l'ont fui et qui s'y opposent.
Ce festival a été fondé à Moscou dans les années 2010.
À l'époque, il rassemblait dans ses salles ceux qui étaient pour la plupart d'eux contre le régime de Poutine, par exemple, l'un des films inquiétants sur la corruption en Russie produit par Alexei Navalny a été primé par ce festival, mais après la guerre, les attaques physiques contre l'organisateur de festival, Vitaly Mansky, originaire de Lviv en Ukraine, cet événement a dû quitter la Russie pour Riga, la ville où une grande partie de la population parle russe encore.
Alors ça veut dire que Art Dog Fest est devenu aujourd'hui un festival de cinéma anti-guerre russophone ?
C'est plus compliqué. Une grande partie des films ont tourné en russe, oui, mais il y a aussi des films en ukrainien, en polonais, en lituanien. La langue, ce n'est pas un critère de sélection. En plus, le festival n'accepte pas les films produits par la Russie avec la participation financière de l'État russe. Se prononce contre la guerre, mais tous ces films ne sont pas consacrés à l'invasion.
Alors, quel film on peut voir, vous avez vu à ce festival ?
On commence par le film qui a remporté le Grand Prix. Il s'agit d'un film In the Rear View, vu dans les rétroviseurs par Maciek Kramela. On l'a déjà vu à Cannes d'ailleurs, voici l'extrait. Sur l'écran, les routes ukrainiennes minées, détruites, les ponts de contrôle de l'armée sont les premiers mois de la guerre. Maciej Kramela, un réalisateur polonais, ne sait pas comment réagir à l'invasion. Il achète un minibus et s'occupe de l'évacuation des civils. Il en profite pour noter les histoires de ces gens, les histoires pleines d'horreur, mais aussi de l'espoir, parfois complètement inattendu, notamment sur l'écran. On voit que le bus de Maciej Kramela était le seul qui est venu sauver une ressortissante africaine grièvement blessée par les Russes.
Et puis un autre film qui a beaucoup marqué le public et le jury, puisqu'il lui a accordé une mention spéciale, c'est The Last Summer par Vitaly Akimov.
Ce film a été tourné en été 2022, à peu près au même moment que le précédent, mais les deux réalités n'ont rien à voir entre eux. Ici, les jeunes, les adolescents à Moscou font semblant que la guerre n'existe pas. Sur les images, très graphiques contrastes, tout sauf une petite partie du film est en noir et blanc. Il participe aux bagarres de la rue, il parle de l'amour, de l'avenir, de l'art, des drogues. Une jeunesse très agressive et romantique aimerait avoir la vie normale, comme leurs aînés dans les années 2010 en Russie. La guerre, c'est très loin. Seul un vieux fou pro-Poutine qui pénètre dans l'une d'une soirée en parle, mais puis la mobilisation s'approche et il ne devient plus possible pour eux de ne pas remarquer cette guerre.
Alors on est bien d'accord que ces deux derniers films dont vous nous parlez concernent la guerre.
Oui, les films de commentaires sortent toujours des reflets de réalité. Si la guerre est dans la vie, même s'il est loin, elle ne peut pas être complètement absent sur l'écran. D'ailleurs, c'est le cas aussi de l'Oscar, le film Open Gamer, qui a remporté les grands prix par le site de la guerre nucléaire. Et voici ce qu'il dit Vitaly Mansky, l'organisateur de ce festival. Quand on montre un film tourné en Russie, on ne peut pas montrer tout simplement un bon film. On ne peut pas se permettre d'organiser une projection d'un film sur l'écologie ou sur l'art. Ce qu'on entend, c'est l'analyse de l'origine de cette guerre, de son contexte. Autrement dit, Vitaly Mansky, un film de commentaire tourné en Russie ou par les Russes, c'est un film qui ne passe pas à côté de l'événement, même si la guerre ne doit pas forcément être toujours sur l'écran.
Et puis, il y a un autre film qui a retenu votre attention. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de...
L'histoire d'un DJ, je crois.
Oui, effectivement, c'est une histoire d'une DJ âgée de 84 ans. Après des années de travail dans les services pénitentiaires, elle a décidé de se tourner vers la musique et de deviner une icône pour la jeunesse en lueur d'espoir de vie d'une époque du Covid. Une décision qui ne passe pas auprès de ses enfants ou d'autres personnes âgées qui leur jugent un peu infantile. Un film très touchant, je vous le conseille, car on peut le trouver sur Internet.
Merci Denis Relkov de la rédaction russe de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI et sur les applis. Témoin d'actualité.